Mémodio, une mémoire sonore.
Bonjour, nous sommes très heureux de vous accueillir pour ce nouveau rendez-vous avec Serge Peille. C'est le quatrième rendez-vous depuis novembre. Ces rendez-vous ont lieu sur toute la saison jusqu'à la rentrée, jusqu'au mois de septembre, puisque Serge Peille nous a fait l'honneur de faire une donation de ses documents de travail à la bibliothèque. Et dans ce cadre-là, il a accepté aussi de proposer une création dans les vitrines de la grande salle qui va petit à petit s'habiller de ses œuvres jusqu'au mois de septembre 2026. Dans ce cadre-là, l'idée, c'était à la fois de valoriser son travail, de montrer une œuvre en création, et pour nous, bibliothèque, à la fois de montrer qu'on est un espace de conservation, mais aussi de création contemporaine. À chaque fois, M. Peille a carte blanche pour proposer les thématiques. Cette fois-ci, la séance se tournera plutôt vers son travail sur le tarot de Toulouse. Ce travail, le jeu de tarot, est un jeu populaire qui a donné lieu à de multiples créations littéraires et poétiques au fil des siècles. Serge Peille travaille sur ce projet, sur le tarot de Toulouse, depuis une trentaine d'années, depuis qu'il a commencé à travailler avec ses étudiants à l'université. Et ce travail va se concrétiser en septembre par la publication de ce tarot, de ces documents, en trois volumes, aux éditions, alors que je n'écorche pas, aux éditions de la Rumeur Libre, au mois de septembre. Donc, il va vous présenter son travail sur ce jeu et toute sa démarche. Nous allons par contre commencer aussi la séance par un hommage qu'il a voulu rendre à un ami qui lui est cher, qui est récemment décédé, Novarina, par la lecture d'une lettre qu'il lui a adressée. Donc nous vous remercions d'être là parmi nous et je vais laisser la parole à Serge Peille qui va pouvoir commencer sa présentation.
Entre mes doigts fermés, je tiens un œil ouvert qui traverse le monde, mais que nul vraiment ne voit. Sous les yeux de la foule, cet œil est à l'envers et se cache sous un verre volé à un roi. Ainsi je passe debout devant des croix de verre, car tout œil éclos dans le regard de sa loi. Devant cet œil fermé, personne ne fait loi, ni la table, ni le hibou rouge à l'œil ouvert. Un œil, comme un dé, passe sous le pont des verres, et un autre est caché dans le miroir qui le voit. Celui qui sait est couronné par le roi, qui ouvre les portes avec sa clé à l'envers. Le moulin d'un enfant nous met à l'envers. Il faut toujours mourir, telle est la vraie loi. Celui qui tient ses yeux cachés est un grand roi, même si un singe nous offre son œil ouvert. Seul le ciel est un œil qui se crève et nous voit. Les trous sont des feux froids tombés du bout des verres. Chacun garde sa mort au fond d'un piège à verre. Un enfant fouille les poches d'une poupée à l'envers. Mais qui voit la vie voit moins de ce qu'il voit. Sous la table, un chien masqué surveille la loi. Le sac contient les yeux enclos d'un jeu ouvert. Caché un œil est l'art funèbre du grand roi. L'œil sous le verre est déjà dans la manche du roi. Une main cache un nouveau dé au fond d'un verre. Tous les yeux de la nuit sont des nombres ouverts. Il faut héler le ciel et le mettre à l'envers et voir ses dés rangés dans un trou hors la loi. L'œil mort sur la table remplace l'œil ouvert. Le voleur ne regarde pas le dé qui nous voit. Derrière lui, un globe, le sacre, tel un roi. Celui qui voit un œil dans la main de sa loi trouve toujours un autre œil caché dans un verre. Les deux yeux sur la table voient les choses à l'envers. La grenouille, chue d'une bouche, est un œil ouvert. Mon amour à l'envers est un silence ouvert, caché dans un verre, nu par le nombre qui voit. Chaque dé du roi multiplie l'ordre de sa loi, sextine de l'escamoteur et du bateleur, sextine de la fin du monde. L'enfer est un œuf de sang qui traverse le monde. Arcane 21, une femme de charbon nous invite à sa ronde. Sous le bec d'une pie, un démon se fait homme. Un œil, au fond d'un puits, attend une croix. Pendant qu'un coq, dans le fleuve, clame sa foi, une fleur de verre érige sa branche de roi. Une hyène lèche un clown qui est le jumeau d'un roi. Une crosse pénètre les reins d'une femme du monde. Le couteau qui ouvre sa main tient le dé de la foi. Un autre caresse un œuf en équilibre sur sa ronde. Une vierge est punie par un fouet sur la croix. Le crapaud chante un cantique sur le cul de l'homme. Un poisson écarte ses seins et attend un homme. Des hirondelles bleues sortent des boyaux d'un roi. La musique des harpes est interdite par la croix. Même si un singe noir arrache un œil au monde. Seul le ciel est un œil qui se crève dans la ronde. Et un lièvre d'épines dévore les pieds de la foi. Un démon ferre les pieds de la négative foi, une cornemuse souffle dans un homme, une aiguille traverse un nain dans une ronde, un soldat au sexe de poisson torture un roi, on entend ses dents de lait qui divisent le monde, cacher les plaies et l'art funèbre de la croix. Une aiguille froide traverse les ongles de la croix, et une main lance un dé au fond de la foi, les étoiles nues soustraient les prières du monde. Dans l'infini, seul Dieu veut devenir un homme et voir ses yeux éteindre le miroir d'un roi. Nous sommes en silence, le cri muet de la ronde. La lumière empile des morts joyeux dans la ronde, le soleil palpite sous le semblant de la croix, la nuit et le vin rouge éventré de nos rois, la chair se vitrifie dans les eaux de la foi, la brume en éventail tombe sur le cri d'un homme, des mendiants en sifflant inventent notre monde. Les cris de l'homme retiennent les dés du monde, pendus à sa croix, l'ombre et le nombre de la foi, ses clous inventent un roi au centre de la ronde. Cher Valère Novarina, bonjour. La dernière fois que nous nous sommes rencontrés, tu m'avais dit de t'envoyer mon dernier travail sur les arcanes majeurs. Mais tu es parti. Je ne vais pas commenter tous les arcanes, seulement l'extrait d'une carte, celle du pendu, dans le cadre d'une écriture du tarot de Toulouse. Maintenant, pour toi, qui est accroché à un pied par un fil, la tête dans les étoiles, voici quelques indications ainsi que le contexte qui m'ont poussé à écrire ma première carte. Cher toi, on accusa les gitans. Ce n'étaient pas eux, c'étaient les autres. Un matin lourd de septembre, alors que des voyous du vent d'autant renversaient les poubelles, on vola, vous pouvez le vérifier, les pans sacrés du jardin des plantes. La chasse aux profanateurs fut déclarée, mais les poursuites restèrent vaines. Seul un concierge avait gardé dans sa guérite un bouquet de plumes qu'il honora dans un vase sur l'autel de l'église Saint-Exupère, jouxtant le muséum. Le parc, orphelin de ces oiseaux de Junon, n'était plus désormais un jardin. Plus de roues, plus de cris, ni d'étonnement. Le paysage en fut réduit à compter ses rats, ses pigeons, ses canards, et même le squelette d'un renard, oublié dans une fosse. Un arbre de chair aurait en outre perdu ses feuilles, ses os et ses bouteilles de bière. C'étaient deux racailles, déguisées en gardiens, des parterres de fleurs qui avaient fait le coup. Parallèlement à cette tragédie, un événement souterrain mit les milieux ésotéristes et pataphysiciens en ébullition. Les arcanes majeurs du tarot de Toulouse, créés jadis par un mage inconnu, furent réveillés ou retrouvés dans une cave de la vieille ville. Quelle relation pouvait-on établir entre les plumes de Pan et un jeu de cartes, si ce n'est que ce volatile royal possède des dons de voyance et que le dos de chaque arcane était recouvert de dessins imitant les plumes de Pan aux yeux ouverts? Au début du XIXe siècle, cher Valère, le tarot de Toulouse ou de Garonne, s'étant perdu, on l'oublia presque définitivement. Pourtant, des chercheurs hermétiques se mirent en chasse et de génération en génération se transmirent la mémoire de la sombre sainte quête. Ainsi, par bonheur, certains arcanes furent retrouvés chez un brocanteur de la défunte place Saint-Georges et les autres, plus ou moins reconstitués, avec des crayons de couleur par des collectionneurs émérites. On resta longtemps sans nouvelles de ce jeu depuis la Seconde Guerre mondiale. Mais quelle ne fut pas la surprise des amateurs quand on l'identifia au début des années 70 dans une cave de la rue des Blanchers sous l'ancien temple d'un théâtre appelé la Basse-Cour. On récupéra même certaines de ces icônes sacrées dans une vieille chaussette de laine au fond d'un coffre ciselé par l'artiste toulousain Abdon d'Arbefeuille. Ainsi l'avenir et le passé d'une nation ésotérique retrouvèrent-ils une partie de leur allégorie fanée et la comédie toulousaine divinatoire entreprit-elle, encore une fois, ses décodages gitans de hasard et de bonheur. Puis, le fil du temps s'effrangeant, le jeu sacré fut de nouveau égaré durant une trentaine d'années. Ce n'est qu'au début du XXIe siècle qu'il ressuscita à Linket, le marché aux puces de la ville, pour ceux qui ne connaissent pas le Toulousain, sous la forme d'une quinzaine de cartes pendues sur un fil à linge. Immédiatement, une poignée de poètes aventuriers le réordonna, le compléta en redessinant certaines arcanes et même le modernisa jusqu'à ce qu'un jour, un imprimatur thaumaturge lui fut définitivement octroyé. Il devint ainsi un divertissement secret de reconnaissance, laissant renaître des fantômes inavoués durant les anniversaires de la mort ou du désespoir. Depuis quelques dizaines d'années, cher Valère Novarina, des réunions nocturnes, synergiques et télépathiques, sont organisées par un groupe dont je fis partie dès sa création, sous l'appellation de Compagnons de Terre Kabbale, K-A-B-A-L-E, hébraïque, nous continuons ainsi à décoder dans un temple du soleil noir les tarots de la magie. En choisissant le nom de notre cénacle, nous avions détourné à cet effet l'aura du grand cimetière de Toulouse, Terre Kabbale, dont la traduction en occitan, Terre Kabbalo, signifie terre excavée. Kabbalistes occidentaux, nous l'étions évidemment sous le vaste tilleul séphirotique qui faisait pleuvoir les lettres de son alphabet impénétrable sur les berges inondées de la Garonne, que certains désignaient sous le nom de sa couleur véritable et boueuse des jours de tempête, la marronne. Je fus plus particulièrement chargé par les fous, les hérétiques, les délinquants de l'ésotérisme, les poètes et les clowns de cet immense jeu de pistes, d'en concevoir les haltes et les images, et ceci sous la protection avertie d'un autre arbre d'écriture poussant à l'envers sous les dalles de la basilique Saint-Cernin. Le cimetière de Terre Kabbale, cette carrière de terre, fut revendiquée dès le commencement par des alchimistes, parallèlement aux artisans qui creusaient le sous-sol pour en extraire l'argile, servant à modeler les briques rouges qui construisaient nos maisons et qui élevèrent en outre les murs secrets de la métaphysique des berges de notre fleuve, quelques tombes camouflées nous donnent encore une consigne intransigeante. RIPA, R-I-P-A, ne pas rire, ou, plus précisément, Requiem in pace aeternam. C'est de la boue pétrie par les morts que surgit l'or spirituel. Les fous le savent. Cher Valère Novarina, le vent roi de notre capitale est l'OTAN, toujours premier. Mais quand il est autant rose, il nous guide vers la prophétique et visionnaire présence anagrammatique de l'astronaute. Incarnation de la citadelle à côté de sa croix pommelée, Toulouse survécut toujours avant la lettre comme une des cités de la conquête de l'espace sous la protection de Savinien Cyrano de Bergerac et de son livre majeur « L'autre monde » ou « Les états et empires de la lune ». Le personnage narrateur qui nous ressemble étrangement entame une promenade chaque matin sur l'astre jaune en lisant à sa ceinture des fioles de rosée renforçant et dévoilant d'une manière exigeante l'ascendance symbolique de Toulouse, ville rosée. Le manoir de Toulouse, la maison Dieu, cher Valère Novarina, qui était à Carte, n'est pas le Narbonnais, mais le palais philosophal qui contrôle l'espace du cimetière, un temple de briques rouges prenant feu à chaque coucher de soleil. C'est la fabuleuse maison Giscard, surmontée de statues de singes, qui scrute l'ascension vers la demeure des morts. La concierge, le concierge de ce château, un démon affublé d'un chapeau haut de forme, y murmure sa messe noire chaque fois qu'un visiteur sonne la cloche de l'entrée. Qui vive, qui meurt. Te souviens-tu, Valère Novarina, de la visite que nous avions effectuée dans ce palais philosophal? À l'occasion de l'anniversaire de la mort de Maurice Magre, dont le nom d'oiseau aux lettres combinées est Mu Acier Germa ou Armage, la confrérie secrète des compagnons du tarot de terre, du verbe se taire, cabale, choisit lors de sa désoccultation de publier un jeu divinatoire clandestin et surréel. Ce tarot, toujours en vigueur, possède la caractéristique d'être double, doté d'une face et d'un dos. Ainsi, chaque membre de la corporation possède-t-il un jeu recto-verso dont chaque arcane est inséré dans un étui cartonné interdit de divulgation. De surcroît, le jeu toulousain, utilisé au cours des cérémonies aventurières parallèles à la compagnie du Gai Savoir, à la particularité, tout en continuant la symbolique de celui de Marseille, d'avoir intégré de nouveaux personnages et de présenter le nom des cartes en languedocien. Durant le tirage, le jeu est mélangé dans une poterie de la maison Giscard, affublé d'un masque de singe, un officier de la Société Invisible plonge sa main dans le récipient pour en retirer une carte au hasard. Selon les années, la cérémonie de l'épreuve a changé souvent d'espace. Longtemps effectuée dans le bistrot mythique et résistant des Acacias, elle vit son déroulement s'accomplir dans des lieux aussi différents que l'ossuaire des Jacobins, un tout à l'égout de la rue Pargaminière, le château d'eau, le muséum d'histoire naturelle du Jardin des Plantes et même une station désaffectée du métro. Il circule d'ailleurs la rumeur que c'est dans les locaux de l'incunable 16 Grande Rue Nazareth que se tint la première réunion. À chaque décès d'un des adhérents de la confrérie, un repas est organisé dans le restaurant de la rue pour y trouver un remplaçant. Comme dans le roman de Lawrence Block, Tous les hommes morts, que je vous conseille de lire. Livre de reconnaissance, les adeptes de la société utopique du soleil noir, chacun surveillé dans le groupe s'il n'y avait pas un assassin. Mais c'est à l'occasion du Gian Valère Novarina, du 200e anniversaire de la mort du naturaliste Philippe Isidore Picot de la Peyrouse, qui constitua son musée dans le monastère des Carmes Déchaussés, que le 18 octobre 2018, le jeu de tarot fut réactivé officiellement sous le nom de Tarot de Toulouse, ou Tarot des Compagnons de Terre Cabale. La cérémonie s'effectua dans un couloir secret, derrière une armoire de papillons, pivotante que la résistance entre 43 et 44 empruntait pour se réunir. Le tarot, son anagramme nous l'indique, est un tas d'or, un petit monticule de pépites, de pierres de lumière. C'est ce que nous ouvre le chemin de Picot de la Peyrouse. Chercheur en minéralogie, anagramme de la science de l'aigre moine, pendant de l'antimoine, îlot de l'or imaginé, ce Picot s'intéressait alors à une espèce de pierre qu'il baptisa Coupholite, ou pierre légère. À l'origine de la création du musée d'histoire naturelle, il était l'ami de Dumège, Metge, dont le nom en occitan désigne certes le docteur, mais aussi le sorcier et le mage. Très influencé par Jean-Jacques Rousseau, il fonda une association, les Amis du désert. La pierre légère qu'il étudia fut le soubassement du temple philosophique qu'il créa, une pierre capable de flotter sur les eaux de la spiritualité comme le Christ marchant sur les ondes de la mer. Sa minéralogie, nous le dicte, Et lors, imagine, ce fondateur du musée d'histoire naturelle conduit le visiteur actuel ainsi à une autre introspection. Cher Valère, dans les vitrines qui m'ont été offertes par la bibliothèque du Périgord, j'en réserve une au Tarot de Toulouse. Pourquoi ? D'abord, en rappel, la poésie ne prévoit pas l'avenir, mais du présent, car on ne la voit pas, d'ailleurs, comme le passé. Je ne suis pas un cartomancien, même si j'aime les cartes. Le tarot est un jeu de table, un jeu d'images, mais aussi et surtout un jeu de langue ou un jeu de fables. Cher Valère, c'est avec le livre d'Italo Calvino, rencontré jadis au collège de pataphysique, Le Château des Destins Croisés, que je lus dans les années 70, que le tarot prit pour moi l'allure d'une création littéraire. Cher Valère, dans les deux sections de ce livre, un groupe de personnes qui ont perdu la parole à cause de leur expérience trouvent refuge respectivement dans un château et une taverne et racontent son histoire à ses pairs à l'aide d'un jeu de tarot. Dans Le Château des Destins Croisés, Italo Calvino utilise les cartes du tarot Visconti Sforza et dans La Caverne des Destins Croisés, où sont représentés des gens ordinaires, il utilise le plus populaire et rustre tarot de Marseille, dont les figures sont représentées en noir et blanc. Cher Valère, comment en suis-je venu là, entre théorie, fiction et symbolique ? D'abord parce que le langage est partout, mais surtout la langue de la création. Ce que me fit entamer mon travail autour d'un tarot toulousain, c'est d'abord la beauté du tarot dit de Marseille, et je l'avoue, l'exercice du groupe surréaliste autour de ce jeu. Le travail que je menais à l'université, autour de la poésie d'action, me mena à explorer le tarot de Marseille, auprès de mes étudiants, dont certains sont ici dans la salle, comme un tableau vivant. C'est là que je fis une découverte fondamentale, grâce à la linguistique et à l'histoire. Le tarot de Marseille, même s'il fut édité dans la dite ville, reste une confusion, un bouleversement de langage et souvent une dérive dans le grand éclat de rire de la langue des oiseaux. Car ce fameux tarot de Canebière, s'il n'est pas un abus de langage, mérite tout de même une autre explication historico-étymologique plus probable. En s'imprimant dans la ville phocéenne, et ce dans l'oreille provençale qui la caractérise, c'est sûrement une origine distincte qui est assignée. En effet, ce tarot est la conséquence incontestable du travail de la pensée de Marcello Ficino. L'éblouissant tarot phocéen, et je dirais malgré lui, possède un éventail de cartes brûlant et aiguisant les doigts sorciers du tireur. Des allégories convoquent d'une manière bouleversante des textes de Platon, ainsi que les périphéries flamboyantes de tout le mouvement néoplatonicien. C'est ainsi qu'il convient de repérer, dans la liste fantasmée ou scientifique, les origines de ce tarot de Canebière, le philosophe Marcello Ficino, comme un diamant. En effet, ce dernier est célèbre, entre autres, pour avoir été le premier à traduire les œuvres de Platon du grec vers le latin. Cette traduction de la lumière, à la lumière de ses gloses et apostilles, maîtrise de troublantes accointances avec la description des lames et surtout son nom passé à la postérité. C'est de la sorte que le tarot de Marcello Ficino est devenu, dans un curieux rapprochement des oreilles populaires et savantes, le tarot de Marsiglia, de Marseille. Et il eut ainsi pour collègue ce Marcello Ficino de Marseille, les inégalés pics de la Mirandole, Ange Politicien et Jérôme Benivieni. C'est à sa lumière ou son ombre qui influencèrent la conception des arcanes du tarot dit de Marseille, qui prit d'une façon radicale et définitive le nom de tarot de Marseille. C'est le tarot de Marcello Ficino. Par un hasard de langue, de géographie et de son, le patronyme du philosophe rejoint comme dans un calque l'écriture du mot Massilia. Massilia, nom habituel de la célèbre métropole en 515, va évoluer vers Marcilli, Marcilli, Marcelli, etc., etc. La Révolution française passant par là semble mordre ce tarot. En effet, Marseille, ce que peu de personnes savent, est en même temps temporairement débaptisé du 6 juillet au 12 février 1794 en punition de son implication contre-révolutionnaire dans le mouvement fédéraliste. On supprima son nom. Marseille désormais se nomma la ville sans nom. Elle devient, dans un mystique concours de circonstances, la fameuse carte du tarot, arcane 13, celle de la mort, qui est aussi l'arcane sans nom. Tout cela dans une graphie oubliée, convoquant certes l'autorité de Saint-Marcel, mais également son nom orthographié comme Marseille jusqu'à Marcello Ficino. L'appellation tarot de Toulouse ne serait-elle pas comme celle de Marseille la dérive phonétique entre le patronyme sonore de la ville et celui d'un philosophe? En effet, si le tarot majoritaire est le produit d'une confusion entre la capitale phocéenne et le philosophe néoplatonicien Marcello Ficino, il est probable qu'une telle équivalence sémantique ait aussi habité le tarot de Toulouse. Dans les cercles spirites, quelques documents attestent ou lèvent l'hypothèse qu'un certain chevalier de Toll House en aurait été l'auteur. Le pseudonyme de ce pataphysicien éclairé, fréquentant les périmètres secrets des tables tournantes de la ville, semble avoir été choisi en référence au château de Toll, situé dans le département français de l'Ain, faisant face au château de Chenavel. N'oublions pas que cet héritier de Barthélemy de la Balme porte non moins l'appellation de duc de Toll, nom d'une rare tulipe odorante venant renforcer son appartenance toute poétique à la compagnie des jeux floraux de la ville rose. D'autre part, une nouvelle piste ouverte récemment s'élargit à l'idée que le tarot des oreilles aurait été plus précisément l'œuvre de John James Hugh Henry Seward Murray, 7e duc d'Atoll House, écossais, établi quelque temps sur les berges de Garonne.
Mémodio, une mémoire sonore.
Cher Valère Novarina, on l'a vu être affirmatif en occitan suppose une alliance entre le soleil et la lune. Prononcer oui, hoc, merci, c'est souligner une éclipse de l'astre de feu pour contempler la lune au visage écorché. La tête, chevelue du soleil, cache celle de la lune derrière un masque de flammes blanches. Le palmier rouge des Jacobins, cher Valère, contient le secret de Pie. On dit ainsi qu'il pisse devant l'aboiement des chiens de Dieu, Pie à la gueule ouverte, pour déambuler dans l'église. Il ne faut surtout pas, tu le sais, suivre les méandres du sol, mais continuer en parcourant les nervures des voûtes. C'est tout en fixant le haut de la colonne éclatée du palmier jusqu'au vertige de verre du poème. C'est le chemin du dieu absent qui donne le cercle pivotant autour de son centre, notre arcane 19, et dont celui du secret d'un astre pelé en quartier comme une pomme cramoisie et acidulée. 22 nervures correspondent aux 22 lettres de l'alphabet hébraïque et aux 22 arcanes majeures du tarot. Confirmant une étymologie romantique de Toulouse, Toulouse, la ville de la lumière, comme temple de lumière, le palmier qui soutient ses arcanes est volute de pierre, représentant son fait un soleil intérieur. D'autre part, la somme numérologique de la console extérieure des Jacobins, regroupant Saturne, Hercule, le chien à l'envers et la feuille, nous donne exactement 365, le nombre de jours de la Terre, faisant le tour de l'astre du feu. Cher Valère, le pendu de Toulouse, si on le retourne, est un pendule. Il n'est pas pendu, mais danse sur une carte. La Voie lactée se nomme également le chemin de Saint-Jacques. Aussi notre pendu, la tête dans les étoiles, se met-il en relation avec d'autres appellations de la traînée blanche dans le ciel nocturne, ou Camille de San Jaume. Cette carte, on va le voir, se place fondamentalement sous l'autorité de Saint-Jacques le Majeur. La légende dorée de Pierre de Voragine, composée en 1262, nous confirme cette filiation entre l'arcane 12 et un événement surnaturel s'inscrivant à Toulouse, à proximité de la basilique Saint-Sernin. Le texte qui va suivre donne tout son sens à la curieuse façon du pourquoi et du comment cette image implique un pendu vivant, ce qui nous permet un nouvel éclairage de l'essence symbolique de l'arcane. Ce prodige figure ainsi dans le codex Calixtinus. En effet, c'est le grand pape Calixte qui nous le raconte. Écoutons-le. Une délégation d'honnêtes pèlerins allemands, parmi lesquels marchaient ardemment un père et son fils, avait fait halte à la ville sacrée de Toulouse, comme il était de tradition, sur le célèbre chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Avant de se rendre aux prières et autres offices, célébrés le lendemain dans la basilique Saint-Cernin, qui associait d'une commune ferveur tous les porteurs de coquilles, ils se mirent en quête d'un gîte accueillant et modeste. Ils en débusquèrent un non loin de là, apparemment de bon aloi, et ainsi soupèrent avec leur hôte chaleureux et volubile. Le pape continue. Cependant, leur logeur, qui était en vérité un malotru, avait pris l'habitude de rançonner les pèlerins de toutes les façons, et cette nuit-là, délibérément, il les enivra d'un vin capiteux. Durant leur profond sommeil, l'aubergiste, malhonnête, visita leurs bagages et dissimula dans une de leurs cantines une coupe d'argent. Pour quelle intention ? La suite édifiante va nous le montrer. Le lendemain, aux premières lueurs de l'aube, alors qu'ils venaient à peine de quitter les lieux, les deux hommes entendirent des cris furieux et une meute de gens en colère qui les poursuivaient en les insultant. Parmi eux, ils reconnurent l'hôtelier véhément, entouré d'un groupe armé qui vociférait à se rompre les cordes vocales. « Voleur, voleur, vous avez volé ma coupe d'argent, rendez-moi ce qui m'appartient !» Interloqués, les deux pèlerins, habités de leur bonne foi, lui répondirent qu'on pouvait les châtier si jamais on trouvait l'objet du délit ou le produit de moindre larcin sur eux. Ne se doutant pas un seul instant de la fourberie de l'aubergiste, ils s'écartèrent poliment en invitant les présents à fouiller leurs bagages. C'est alors que devant leurs yeux stupéfaits, dans leur malle ouverte, on rencontra effectivement la coupe maudite. Le père et le fils furent aussitôt traînés par la foule, en délire, devant un juge qui prononça évidemment un verdict redoutable et immérité. La totalité de leur avoir fut adjugée à leur hôte, et l'un des deux hommes fut condamné à une pendaison immédiate. Après un dialogue avec son père, c'est le fils qui se sacrifia, cher Valère. Il implora qu'on l'exécute sur le champ. Quoique complètement innocent, après avoir assisté au supplice scandaleux de son fils, le père en larmes continua son pèlerinage, ô combien douloureux, vers Saint-Jacques. Cependant, quelques mois après, quand il revint à Toulouse pour voir le corps de son enfant, toujours sous la potence, que ne fut pas son effarement d'entendre celui-ci lui murmurer au bout de la corde « Père, ne pleure pas, car je n'ai jamais été si heureux. Jusqu'à ce jour, Saint-Jacques m'a nourri et fortifié et me restaure à chaque instant d'une douleur céleste. » La foule, évidemment, présente, cria à l'heureux prodige et proclama la sainteté immédiate du pendu. Et comme on peut s'y attendre, devant ce miracle contre la mort, le fils abusivement condamné fut décroché du gibier, puis sur le champ, l'aubergiste frauduleux le remplaça au bout d'une nouvelle courroie. Le pendu fut dépendu. C'est ce que nous raconte cet arcane. La tête du fils du pèlerin était restée ainsi dans les étoiles durant toute une lunaison, conversant avec les défunts dans la Voie lactée, parmi les âmes. Le pendu dépendu de Toulouse est le septième prodige de Miraculi Sancti Jacobi, le deuxième livre du Codex Calixtinus. D'autres légendes parlent de ce pendu. L'upenjat, en occitan, le pendu, et de cette façon, extrait d'une fresque ou d'un vitrail, il est la continuation d'un conte que le lecteur du pendu se doit de réinventer. L'arcane 12 est de la sorte la carte du pèlerin de Saint-Jacques de Compostelle. On peut ainsi remplacer dans le cartouche de notre pendu, aussi par la plume de poule, son anagramme soulignant qu'elle est une lampe du loup élu. Le pendu que nous voyons est une plume. Car si on considère toutes les histoires qui se racontent sur le chemin de Saint-Jacques, on voit que souvent une poule et un coq sont présents autour de ce pendu et que le pèlerin prend une plume, ce qui fait dire que le pendu de la carte du tarot du 12e arcane n'est pas un homme, un être vivant, mais une plume. Cher Valère, Claude Gudin, transparent du collège de pataphysique, lors d'une action que j'ai effectuée depuis début années 80 au Festival du Zeste chez Bernard Lubat, me fit découvrir un nouvel aspect du pendu que je reliais immédiatement à ma quête impérative du tarot. Quelque temps avant mon intervention, qui s'intitulait l'Évangile du serpent. Il m'offrit une mandragore afin que je l'utilise durant ma performance. Il m'expliqua la relation singulière qu'entretenaient nos anciens dans la région avec ce tubercule. Le rituel était précis. Quand un berger repérait une mandragore, il invitait ses voisins, lors d'une nuit de lune rousse, à venir l'extirper avec lui. Pour mener à bien cette action, chaque homme devait se rendre secrètement à la réunion sorcière avec son chien. Arrivé sous l'arbre, les présents préparaient de suite des cordes dont l'extrémité était attachée à la queue de chaque chien. Puis, à un signal donné par un vieillard, on jetait les boucles des lassos sur la mandragore. La corde, qui servait à extraire la mandragore, est encore un cordon ombilical, le même cordon auquel est accroché d'ailleurs le pendu de l'Arcane 12. On sait aussi que la Voie lactée est reproduite symboliquement au Moyen-Âge par le feuillage de chêne. C'est la représentation que nous en avons sur le portail de la cathédrale Saint-Étienne de Toulouse. La mandragore reste un enfant tordu de la Voie lactée et de la terre, jouant son rôle d'intermédiaire royal entre les deux. Par la jonction du pendu sacrificiel, on peut penser que l'arcane, que la figure de l'arcane 12 se maintient debout ou danse sur une mandragore. La plante masculine des sorciers resplendit sans l'aide des femmes. La progéniture étant réalisée, accouchée uniquement avec des mâles, elle reste le produit d'une monstrueuse césarienne masculine. Lors de ces cérémonies, où l'on roulait les ombres de la lune rousse, la campagne se remplissait de lumière livide, car la plante, quand on l'extirpait, mugissait ou bramait comme un animal ou un bébé. Il ne fallait surtout pas, pour la prélever, ni la frôler, ni la saisir avec ses mains, et c'est pour cette raison qu'on l'entourait de lasso attaché à la queue de chien, sélectionné pour cet office sacrificiel. Le moment venu, les bergers, avec leurs fouets, frappaient les molosses, les incitant à arracher la plante, en la tirant uniquement à l'aide de leur queue. Afin de ne pas entendre les lamentations de la plante et de ne pas mourir en s'époumonant de la même manière que les cerbères qui étaient à l'œuvre, les présents se bouchaient les oreilles avec de la cire d'un cierge volé dans une église le jour de Noël. Les chiens étaient ensuite mis à mort à coups de couteau, les yeux recouverts de cire bouillante. Pour cette raison, le consultant de l'arcane doit-il encore de nos jours, à Toulouse, s'obstruer les oreilles avec de la gomme ou de la paraffine. Démon objectif efficace, la rumeur propagée que la mandragore poussait surtout au pied des potences, car au moment de sa suspension, le pendu, toujours un homme, éjaculait dans ses pantalons. La jouissance des condamnés était le résultat d'une copulation avec la mort. La racine humanoïde était donc le fruit printanier du sperme des pendus. Le rhizome qui en surgissait, pour cette raison tout à fait sexuelle, ressemblait à une marionnette tordue ou un bébé diabolique s'endormant avec une marotte. C'est ainsi qu'aujourd'hui encore, la tradition toulousaine envoie les hommes noués sexuellement par un sort, d'une part à l'église de la Dorade, puis à la Sala de Ponsan. Dans le très poétique légumineux calendrier républicain, le 21e jour de Ventose, 11e jour du mois de mars, dans le calendrier géorgien, était celui bien choisi de la mandragore. Les sorciers étaient ravis. Mais dans les régions, les forces réactionnaires utilisèrent ce fait pour accuser la grande révolution d'envoûtement. Le nœud au pied du pendu, du tarot, est une racine de mandragore. Cher Valère, le commencement de l'action psychomagique se déroule sous un arbre remarquable du Jardin des Plantes à Toulouse. Celui qui tire cette carte, cet arcane, lui permet de choisir entre un cèdre du Liban, un tulipier de Virginie ou un oranger des Osages. Plusieurs arbres le sollicitent pour qu'il se pende. Mais l'action, parfois, se tient sur les lieux de l'ancien gibet de Toulouse, à la barrière de Paris, chemin de la Sala de Ponsan, ou au carrefour du chemin Saint-Roch et du grand chemin royal, avenue Jules Julien et route de Narbonne. Salado, en occitan médiéval, désigne les fourches patibulaires du gibet. Est-ce en référence à la corde du pendu, qui, comme nous l'indique le dictionnaire furetière, se nomme salade de Gascon, que précisent également les annales catholiques de Genève? On vous donnera des cordes apprêtées qui seront bien tordues et bien filées, ou bien plutôt une salade de Gascon, la corde au cou par-dessus le menton. Est-ce analogiquement la ressemblance d'un pendu avec un jambon de Gascogne ? Cher Valère, pour terminer cette lettre, le pendu est un surhumain et sa corde reste notre métaphore, car ici, il ne s'agit pas de marcher sur une corde, mais de se tenir à la verticale au bout de son extrémité pour accéder à l'incommensurable qui réside dans un ailleurs lumineux. Le pendu funambule travaillant sur une corde tendue à l'envers est une corde possible dans l'impossible, une corde debout, un serpent. Le pendu est donc l'homme accompli du dépassement, celui du surhumain. Il démontre l'inversion des valeurs à travers la corde dressée comme un serpent. Le pendu, sûr de cette corde droite, ne craint pas la mort. Elle est son alliée car il l'a retournée dans un espace parallèle. Sans panique, il pratique la passion de la mort pour justement accéder à l'égarement de la vie. Notre pendu, même s'il apparaît victorieux et souriant sur nos arcanes, doit être vigilant. Il n'est pas en ce sens éloigné du funambule de Nietzsche. Dans le paragraphe 6 de « Ainsi parlait Zarathoustra », en effet, dans ce récit, un bouffon qui est le diable surgit de l'arcane 15, sautant par-dessus les épaules d'un funambule au-dessus d'une place. Le conduit à s'écraser à côté du maître des sagesses dans la foule. Le danseur de corde, arcane 12, peut de cette façon mourir et doit donc se garder en permanence de l'arcane 15. Le tarologue doit se méfier de la foule des lecteurs de tarot qui, comme dans Zarathoustra, se sont écartés et n'ont pas cherché à rattraper l'acrobate philosophique. Le bouffon bariolé qui fait dévisser le funambule, est-il le joker ou le mat, un auguste au postérieur mordu par un petit chien ou un dieu? Certes, le pendu risque une mort physique, mais de la même manière que le suggère Jean Genet, il s'apprête à faire le saut périlleux. Le pendu de Toulouse nous enseigne à voir le corps autrement, c'est-à-dire à le considérer comme spirituellement comique. C'est le sens de son sourire sur l'échafaud philosophique. Il reste l'arcane, non de la mort, mais de la danse sacrificielle de la vie. Sa légèreté fait de lui un oiseau de l'âme, un Saint-Esprit ou un paraclet qui intercède. Son nom parallèle, le suspendu, implique une nouvelle fois la manière dont il faut utiliser l'arcane en limitant le pied debout sur le bout de la corde qui est précisément un ressort ou une suspension de la vérité. Sous la nuit fermée, le jour creuse un tunnel, pendant que les étoiles cachent dans leurs trous. Les yeux sont des doigts courts dans le cri de l'appel. Nous sommes un rayon divisé de hautes roues. Au centre de son moyeu d'or tourne tout le ciel où des trous lentement dressent un couloir debout. Toi qui es mort dans la mort, mets les vivants debout. Qu'une musique insondable joue dans ton tunnel. Et si tu nouis en clair nul appel dans le ciel, abîme le miroir où se parlent les grands trous. Traîné par un chariot qui abandonne ses roues, hurle quatre consonnes bleues qui portent ton appel. Chaque nuit, des étoiles perdues procèdent à l'appel. Un homme cloue ses ailes sur un angle de boue. Notre peau déchirée tend l'infini de sa roue. La lumière palpite en cercle au fond du tunnel et entre nos eaux creux laisse passer ses trous. Voler est un cri d'oiseau au milieu de mon ciel. Nous mangeons des pierres en verre tombées du ciel et le miroir de l'étoile retourne son appel. Seul quand il nous voit, nous devenons un long trou. Le noir du soleil saoule notre silence debout. Quand la lumière absolue tourne dans le tunnel, sur un bord, un point comme un pan fait la roue. Notre cœur est un trou qui tourne avec sa roue et qui déparle seul au cerveau crevé du ciel. Nos yeux sont des doigts dans la nuit du tunnel. Il faut héler les cercles et les mettre en appel pour encorder nos cheveux pour qu'ils restent debout. Le feu de la mort, en regardant, fait des trous. Nous répondons à la nuit en lui lançant nos trous. Au-dessus d'elle, la lumière en joie fait la roue. Qui sait mourir et son vivant qui reste debout. Notre ciel s'ajoute à la hauteur du grand ciel. Nos deux cœurs, dans la nuit, lancent alors leur appel et retournent dans le point la porte d'un tunnel. Le ciel fait l'appel des miroirs du tunnel. Caché dans sa roue, un rayon renverse les trous. Tout croit, toute croix est l'appel d'un contre-nom. Debout, sextine de la nef des fous. L'infini jette sa tête au milieu de sa roue. Dans le ciel, les anges brûlés forgent notre fleur. L'univers permute le temps, puis traverse son trou. Il scie dans ses mains les aiguilles des cœurs. Nous dressons dans la mort nos rêves les plus fous. Et notre rire couvre l'enfer de toutes les peurs. Nous sommes fous et nos yeux crevés ignorent la peur. Nous montons sur un mât où tournent de hautes roues. Notre fête est seule et nos enfants sont fous. Nous délaçons la flamme où rit le silence des fleurs. Nous baptisons la mort crue et nous mangeons son cœur. Nos yeux sont éventrés pour passer dans vos trous. Merci.
Merci. Je n'ai pas parlé de toutes les cartes du tarot. J'ai parlé que d'un petit aspect du pendu, qui est en fait la carte, l'arcane avec lequel j'ai commencé, qui a toute une histoire. J'avais perdu. Le premier cadeau qu'on m'ait fait, c'était le livre du tarot d'Oswald Wirth, le tarot des imagiers du Moyen-Âge. Peut-être que vous l'avez lu, ce tarot. Et j'avais perdu ce livre. Et tout mon courrier. Et une trentaine d'années après, j'ai retrouvé ce livre d'Oswald Wirth. Et dans la carte correspondant au pendu, j'ai trouvé la lettre que René Char m'avait écrite lorsque j'avais une vingtaine d'années. Et donc j'ai toujours associé le tarot, la lecture du tarot, à la poésie contemporaine, et notamment aux lectures du grand auteur de la parole mise en archipel, de la recherche de la base et du sommet. Et en même temps, j'ai voulu, dans le travail que je vais présenter ici, avec un nouveau jeu de cartes que j'ai redessiné, j'ai voulu resituer le tarot à Toulouse dans la perspective du tarot de Marseille, qui, comme je vous l'ai expliqué, comme je l'ai écrit à Valeria Novarina, et le tarot de Marcello Ficin. Et donc j'ai recréé la compagnie du cimetière de Terre Cabale, avec le jeu de mots entre Cabale, hein, le nom du cimetière, et la Cabale. Et en même temps, j'ai assigné à chaque carte du tarot un lieu particulier dans Toulouse. Le Jonglaire, le Bateleur, c'est une évocation des magiciens de Toulouse, et notamment de Simon, le magicien, qui est représenté à la basilique Saint-Cernin sur un tympan extérieur. Et chaque tireur du tarot doit se rendre donc dans un endroit pour célébrer sa carte, qu'il tire d'ailleurs dans le cimetière du secret de Terre Cabale. La dernière fois, je vous avais évoqué la carte du fou, où j'avais choisi ce type merveilleux d'encal pour créer la carte du fou, d'Ancal qui était... je ne vais pas refaire l'histoire d'Ancal, parce que je l'ai faite il y a un mois déjà, mais en même temps aussi cette partie du jeu d'échecs avec Arabal, à Ampalo, dont le texte va être... Le texte et l'échiquier va être mis dans une vitrine ici, où on jouait avec uniquement les narines. C'était les fous qui jouaient. Nous, en l'occurrence, en respirant chaque verre qui contenait, chaque pièce de l'échiquier qui contenait un alcool particulier, un alcool différent, et etc. etc. Donc chaque carte du tarot, bien sûr, la belle Paule est présente, Esclarmonde de Foix et bien d'autres. C'est un livre qui fait plus d'un millier de pages. Et évidemment, en 40 minutes, je ne peux pas vous résumer ce livre d'une quarantaine de pages. Mais j'ai essayé de traduire, de trouver dans le tarot de Toulouse, de réinventer une façon de lire, une façon de lire à l'envers le tarot, car le tarot est souvent une histoire d'œil pour les profanes, alors qu'il est surtout une histoire d'oreille. Il faut savoir entendre le tarot pour pouvoir le comprendre. Par exemple, je peux vous donner quelques délits de fuite. L'amoureux est l'anagramme de Morveux. Et la carte que vous voyez n'est pas la relation entre une femme vieille et une femme jeune. Non, non, c'est la relation, pour ceux qui pratiquent quelque peu l'alchimie, la relation entre la voix sèche et la voix humide. C'est une carte centrale de l'alchimie. Et si on n'est pas alchimiste, on ne peut pas lire cette carte. Les initiés du tarot, les quartiers, étaient des gens qui appartenaient à des sociétés, des corporations, de compagnons. Et je dois dire que lorsque j'ai rencontré la reproduction d'une carte, la carte du Christ de Tulle, qui était le Christ des imprimeurs, j'ai compris ce qu'était aussi le tarot. Ça pourrait être une carte du tarot, le Christ de Tulle, où tous les signes typographiques du XVIIe siècle sont constitués dans un immense Christ qui était affiché à l'intérieur d'une imprimerie. Donc il faut savoir lire. Nous ne lisons pas aujourd'hui comme les gens du XIXe siècle. Le tarot se fait en italien, en Italie. Il se transporte en France, mais il devient ésotérique, hermétique, magique, symboliste dans la langue française. C'est au XIXe siècle qu'il prend son ampleur. Avant, bien sûr, il y avait le tarot en France, à partir du XIIIe siècle, d'après les recherches que nous avons effectuées. Mais surtout, ce tarot, il se fait avec la langue internationale du français, qui était le latin ou même l'italien. Il ne faut pas oublier non plus qu'à cette époque-là, les intellectuels toulousains parlaient plusieurs langues, notamment l'italien couramment, le latin, le français, l'occitan, etc. Et donc c'est dans la langue française qu'on ne peut entendre le tarot du XIXe siècle, à cause des jeux de mots, des contrepèteries, des anagrammes qui traversent le jeu de cartes. La carte sans nom, par exemple, correspond à Samson. Et quand vous lirez mon livre, vous ne pourrez plus lire le tarot de la même façon, car vous n'êtes plus, un peu comme dans le Jardin des délices de Jérôme Bosch, où tout le monde est fasciné, avec raison d'ailleurs, par la beauté du spectacle esthétique de Jérôme Bosch. Mais quand on ferme le tableau de Jérôme Bosch, le triptyque, on voit en effet que c'est quelque chose d'autre qui nous est raconté et qui nous est dit, et que en fait les personnages fabuleux qui sont représentés, ou les scènes érotiques, ne sont que des situations et des personnages conceptuels. Donc il faut savoir lire quelque chose aussi, et aujourd'hui on ne lit pas. Et les gens sont fascinés évidemment par le spectacle de la carte du tarot, notamment celui de Marseille. Le tarot, on peut appliquer cette méthode de lecture du tarot à d'autres langues évidemment, mais c'est dans cette langue-là, dans un jeu entre le latin, l'italien et le français, que nous pouvons interpréter. Le fou, il y a des révélations qui sont faites à l'intérieur de mon livre, qui sont incontournables dans une gymnastique métaphysique du langage. Voilà. Merci.
Mémodio, une mémoire sonore.